7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Et surtout avec Alexandre de Galvin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Richard.
Alors, vous m'avez écrit un texte de malade mental.
Non, non.
Xubulux, Xtrumulux, c'est la dernière chronique de la saison. On espère que vous vous êtes dépassé.
Eh ben oui, alors bon déjà, je dois préciser que ni Maëlys Clausel ni Alice Meunier ne sont là, j'avais besoin d'elle théoriquement aujourd'hui pour cette dernière, mais je ferai sans. Donc oui, Richard, sans doute que telle était mon intention de me dépasser, mais voyez-vous, la chaleur mahométane qui frappait notre belle capitale, je n'ai pas pu déployer l'entièreté de mon génie, et je le regrette. Qu'importe, mais ce qui reste suffira sans doute déjà à vous éblouir, hein, voilà. Donc, Richard, alors je vous ai vu tiquer à chaleur mahométane, Maëlys, loin, je vous ai j'ai senti une lueur sadique s'allumer dans votre regard, cette lueur qu'on observe que quand on évoque un sujet en lien avec la remigration, une soirée, vin, rugby, remigration, ou alors votre petite amie dont je vais révéler le nom en direct, Maëlys, Rémigration. Alors, pourquoi chaleur mahométane? Est-ce par goût de la provocation, par instinct suicidaire, ou par volonté de séduire ma blonde et sudiste collègue? Eh bien, il y a peut-être un peu de tout cela. Oui, alors, chaleur mahométane, parce qu'on se croirait en Arabie, au Sahara, en Afrique, et je n'exclus pas un châtiment du prophète pour notre islamophobie coutumière. Nous parlons d'Afrique, et qui dit Afrique dit tropique, qui dit tropique dit fruits exotiques, qui dit fruits exotiques dit mangue, et qui dit Alexandre de Galzin dit transition aussi un petit peu hasardeuse. Alors, jouons au jeu de la mangue. Alors, le principe est simple, je vous invite tous à jouer, que vous soyez chez vous, ici, sur ce plateau, sérieusement, on va jouer, donc, je vais commencer une phrase et vous devrez la terminer par un mot qui se termine par « ou ». Alors, vous allez comprendre, ok ? Donc, par exemple, si je vous dis « J'ai vu une mangue dans la jungle après une heure et demie de balade à cheval en Colombie. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel... »
Goût.
Oui, goût, très bien, excellent. Ok, maintenant on y va. « J'ai vu une girafe dans la savane après une heure et demie de balade à cheval en Afrique. Je ne savais pas qu'un animal pouvait avoir un tel... »
Coup.
Oui, excellent, bravo, très bien. Oui,
oui, oui, oui. Okay. C'est girafe.
Oui, exactement.
Ah, évidemment. Voilà.
J'ai vu une femme à Dublin après une heure et demie de balade à cheval en Irlande. Je ne savais pas que des cheveux pouvaient avoir un tel roux. Roux, c'était roux.
Allez, sérieusement.
J'ai vu une épice dans un supermarché et après une heure et demie de balade à cheval à Monoprix. Je ne savais pas qu'une girofle pouvait avoir un tel.
Goût là aussi.
Goût aussi.
Clou.
Goût, clou. Ah,
non, bah, oui. Oh là là, vraiment, vous êtes très mauvais. Hein. C'est allez. Franchement, j'ai vu un immigré en France après une heure et demie de balade à cheval à Menton. Je ne savais pas qu'un assisté pouvait avoir un tel. Voilà, mon Dieu. Bon, ok. J'ai joué aux échecs l'autre jour après une heure et demie de balade à dos de cavalier. Je ne savais pas qu'une case F6 pouvait avoir un tel. Fou. Oh là là, mais vraiment. Vous êtes vraiment nul à ce jeu, quoi. C'est tout ensemble.
Oui, c'est super.
Bon,
c'est
okay, super. La dernière. Allez. J'ai vu du fromage l'autre jour après une heure et demie de balade à dos de chèvre. Je ne savais pas qu'un Auvergnat pouvait avoir un tel. Cabécou.
Voilà. C'était vraiment un très bon jeu. Merci,
merci
Alexandre.
Merci. Alors, vous êtes. Personne n'a été bon finalement, en fait, tout le monde était très mauvais. Je pense notamment à vous Arnaud qui avait donné aucune réponse d'ailleurs. Hein, voilà. Enfin, voilà. Et puis même Josiane et Mathis qui sont des auditeurs, voilà, qui ont misérablement tenté de retrouver les réponses, mais qui en furent tout à fait incapables parce qu'ils sont hydrocéphales, c'est-à-dire que leur cerveau est rempli d'eau comme un piano à queue. Alors au moins peuvent-ils garder la tête froide en cette période de canicule. D'ailleurs, je propose que nous jouions tous ensemble au jeu de la canicule. Ok, nouveau jeu. Donc je donne une phrase et vous devez la terminer par cul. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Emmanuel Macron.
Absolument pas.
Emmanuel Macron, si je le vois un jour, je l'en...
castre dans mon véhicule.
Oui, très bien. Voilà.
Mais moi, j'avais la réponse.
Marseille, on t'en joint à être meilleur en Coupe de France pour couvrir de ridicule.
Ah oui, donc on a droit aux phrases.
Ok, la dernière. Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, quand ils sont chez eux, ils sont...
pifre de tubercule.
Oui, très bien, Richard. C'est la bonne réponse. Effectivement, vous êtes très fort, vous.
Alors, ouais, Alexandre, on va arrêter ce jeu très vite, néanmoins. Je ne sais pas où ça peut nous mener, mais je sens le dérapage quand même.
Ok.
Voilà, faisons une pause sur les jeux.
Oui, bon, alors, évidemment, vous tuez ma créativité avec vos diktats, mais bon, Jenny saura vaincre votre censure. Alors, après avoir joué, je propose de passer au bilan de l'année. C'est le moment de peser le pour et le contre, de féliciter et de sanctionner. Tout d'abord, je dois vous confier une grande déception. Oui, en apprenant cette semaine l'affaire de Louis, tabassé à mort par 5 racailles, j'ai été doublement triste. Triste deux fois, pour être plus précis. En fait, tout d'abord, ça me fend le cœur toujours de voir un homme de mon peuple lynché à mort par une bande de racailles, de voir la meute s'en prendre plus faible. Je trouve ça d'une lâcheté effrayante. Ça me donne envie de rétablir, non pas la peine de mort, mais le supplice de la roue. Ensuite, j'ai été triste parce que j'ai appris que le Louis en question était un adolescent de Narbonne et non pas notre sémillant chroniqueur, adepte de la prostitution algorithmique et de l'achalandage numérique.
Je l'attendais, c'est
là. Voilà, visiblement, Louis, la bande que j'avais dépêchée pour régler votre cas n'a pas encore trouvé. Ceci dit, avouez que l'idée de couper l'électricité à un concert de 20 000 personnes par 35 degrés dans l'espoir que vous décidez de chaleur était brillante.
Ouais, voilà. Magnifique. Hein.
Louis Rigaudière, alors que retenir de vous cette année? C'est le moment du bilan. Plusieurs adjectifs me viennent en tête, comme voleur, menteur, sournois, vicieux, mais mieux que les mots, je vais vous donner un chiffre, vu que vous aimez Sam. Ce chiffre, c'est 2 309 000. Selon vous, à quoi correspond-il ?
À la somme que j'ai engrangée depuis que j'ai débuté mes chroniques.
Eh ben oui, c'est à peu près ça, c'est le nombre de vues que vous avez cumulées uniquement sur vos 42 chroniques cette saison.
Oh là là, c'est pas
voilà,
mal.
C'est,
ouais,
voilà,
c'est pas mal.
Avec une moyenne de 55 000 vues par chronique. Alors, attention, alors ça peut sembler impressionnant, 55 000 vues par chronique à première vue, mais si je peux vous rassurer, je vais remettre ça en perspective. Les chroniques de Louis Rigaudière ne font jamais que 12 fois plus que les miennes, donc en moyenne, franchement, faut pas exagérer non plus le succès, pas de quoi faire le malin. Donc voilà, et d'ailleurs, Louis, il fallait que je vous dise quelque chose l'année prochaine. Justement, je prends votre chronique médiatique et vous prenez ma chronique humour. C'est juste pour voir un truc, si ça marche bien.
Ça va moins marcher.
Allez, personne suivante. Magda, d'autres feuilles, Magda. Vous savez, je vous ai globalement épargné, je pense, cette saison. J'ai été très gentil, je trouve. Mais je me dis qu'après tout, j'ai peut-être eu tort. Alors, j'aurais tendance à penser qu'il faut parler aux auditeurs, donc, de vos tatouages dont je ne me remets toujours pas. Le premier, c'est une croix de Jérusalem sur le poignet, ce qui va encore,
c'est
mais le second,
ouais.
Le second m'a un peu surpris, je dois dire. Donc, il va de votre nuque jusqu'à votre coccyx et tout le long de votre dos. Donc, on peut dire, ce ne sont pas les miettes qui font le pain, c'est le pain qui fait les miettes. C'est une citation de François Hollande dans l'édition du 16 avril 2021 du journal Sud-Ouest. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être...
Déjà, je suis assez étonné que vous soyez au courant que l'intégralité de mon dos...
Je suis journaliste.
Ouais,
c'est mes,
on
ne
donne
sources.
Pas les sources. Hein.
Mais alors pourquoi ?
Mais chacun a le droit à son petit jardin secret.
Très bien. Eh ben, voilà. Écoutez, on vous le laisse. Vous, c'est une citation de François Hollande. Deuxième information que nos auditeurs ne savent pas sur vous, Magda, c'est que vous êtes fiancée. Je vais révéler en direct, ici en exclusivité, le nom de l'heureux élu. Il s'agit d'Edouard Philippe, le maire du Havre et peut-être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Alors, peut-être Magda Dautefeuille, peut-être pourriez-vous nous révéler quand il déclarera sa candidature, quelle est sa stratégie
Je pensais tellement qu'on avait été discret. En plus, je suis... Mais vos sources sont bonnes, hein. Ouais. Ça m'étonne, à chaque fois je suis...
C'est du travail de journalisme, c'est chronique.
Ouais, c'est remarquable, hein. Je pensais pas autant de talent.
Mais merci, mais je reviendrai sur mon talent plus tard. Bon alors, maintenant passons à Alice Meunier, donc qui n'est pas là ce matin. Alors, Alice Meunier, je précise qu'il s'agit d'un pseudonyme, parce qu'il s'agit de Margaret Thatcher en réalité, effectivement. Alice n'est autre que l'ancienne première ministre conservatrice britannique, qui a fait semblant de mourir pour se réfugier sur la face cachée de la lune avec Adolf Hitler et Michael Jackson. Mais Alice Meunier a désormais décidé de devenir stagiaire à Radio Courtoisie. Un choix surprenant qui aurait été imposé par Richard de Sesse, qui n'est autre que son arrière-grand-oncle. Voilà, en fait, Richard de Sesse avait épousé en 14e noces la marquise de la Greluche en 1719. Mariage qui avait fait grand bruit, notamment puisque 116 invités étaient morts de soif après que Richard de Sesse eut fait le choix de changer l'eau en pain. Un tour de magie amusant, mais ailleurs qu'à Babelwed, où se situait en réalité la cérémonie au mois d'août. Bon alors, Maëlys Clozel, vous nous entendez de loin, à votre tour. Alors, est-il besoin de rappeler que vous n'avez l'accent du Sud qu'à l'antenne? En dehors, évidemment, en off, comme on dit, Maëlys Clozel par un accent français tout à fait correct. Hein, ça, c'est quelque chose qui... elle n'a cet accent qu'à la radio. Voilà, bon, on peut pas avoir d'exemple, malheureusement. Et puis, Maëlys Clozel, je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'il y a deux semaine, vous avez remporté le Grand Prix du racisme 2026 avec cette déclaration. Les Africains, en vrai, c'est quand même... Ouais, bah voilà. Alors, il faut aussi cette année rappeler l'audacieuse proposition de Maëlys Cosette de renommer Radio Courtoisie en Radio Remigration. Une idée qualifiée d'audacieuse et d'intéressante par Pierre-Alexandre Bouclet, mais rejetée par les 17 patrons d'émission qui souhaitaient étonnamment parler d'autre chose que de renvoyer les étrangers chez eux. Maëlys Cosette, vous êtes également cette année devenue l'égérie de l'association Un Voile, Un Vol, qui offre des billets d'avion Paris-Alger gratuitement à ceux qui la souhaitent et même à ceux qui ne le souhaitent pas. Une initiative généreuse que vous aviez entamée en envoyant le journaliste sportif Christophe Glaise sur place, un exemple de réussite étant donné qu'il y est toujours. Richard, c'est désormais votre tour. Alors, j'ai déjà fait votre hagiographie la semaine dernière, je vais simplement en rester à vos faits d'armes de cette année, à commencer par le record du monde de pingouins à glace que vous avez battu. 1226 mètres, c'est la distance que vous avez parcourue sur banquise en marchant sur deux bébés pingouins encore vivants avant qu'ils ne décèdent. Vous avez donc remporté le gros lot, un rhinocéros noir empaillé. Toutes mes félicitations. Alors, petite ombre au tableau, on vous a retiré votre fonction de président d'honneur de la Fondation pour la défense des pingouins, la FDP. Et puis alors, comment parler de vous, bien sûr, sans parler de vos livres? Cette année, vous avez été l'auteur des Belles-Mères sont-elles de droite aux éditions de la Nouvelle Librairie à seulement 14,90€, puis de Parisien en exil aux éditions de la Mouette de Vinerme à seulement 11,90€, et enfin de Vrai Gentleman aux éditions Salvator pour la modique somme de 16€. Mais vous ne vous arrêtez pas là, puisque comme je le révélais la semaine dernière, eh bien vous allez bientôt signer Mes combats aux éditions Hermann Göring pour seulement 14,88€. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai effectivement abandonné toute subtilité à ce stade. Dans toutes ces récompenses, je pourrais bien sûr parler de la soirée d'anniversaire des 91 ans de Franck de la Technique ou bien de votre étonnant choix de carrière, Arnaud, qui avait choisi de rester à la technique de Radio Courtoisie au lieu de rejoindre les groupes de métal Iron Maiden et Metallica, qui vous avaient proposé chacun une place de guitariste payée 16 000€ le concert. Mais les menaces de mort de Richard de 16 n'ont sans doute pas été pour rien dans votre choix. Enfin, comme vous l'avez tous constaté, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Moi. Alors, au regard du travail de titan que j'ai accompli, de mes progrès, même dans les domaines où j'étais déjà le meilleur, et surtout de ma propension à essayer d'élever ceux qui m'entouraient au plus près possible de mon génie, eh bien, j'ai décidé que je méritais peut-être un peu plus que ce que je vous ai accordé. Ode à moi-même. Ô toi, divin génie, toi le verbe fait chair, tu berces nos matins de tes paroles d'or, je t'écoute sans fin, oui, même quand je dors, tant aube que zénith, et tant velours que fer. Laisse tomber ta plume, ô ange des cieux, écris une chronique, anime un entretien, ta parole élégante est notre seul bien, parle-nous plus encore, toi qui m'es presque Dieu. Tes questions pertinentes suivies d'un humour si drôle et éclatant que j'en ris jusqu'au soir, me montrent qu'après tout il me faut toujours croire qu'ici-bas vit un gars digne de mon amour. Guide-nous, toi Seigneur, vers des sommets plus hauts, de lointains horizons, de meilleures radios, car sans ta voix cosmique il nous semble descendre. Poète et esprit saint, empereur du langage, les jeunes femmes se déshabillent à ton passage. Merci pour cette année, ô toi, grand Alexandre. Voilà, c'était un sonnet, j'arrête mes bêtises maintenant, à la saison prochaine pour ces chroniques, chers auditeurs. Bon courage à Louis pour trouver un titre et une vignette à cette vidéo. Et je ne vous dis pas à demain, mais à lundi, parce que demain, c'est samedi.
Eh bien, merci beaucoup, Alexandre.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour l'analyse, nous retrouvons Rémi Tell, qui est avec nous pour parler euthanasie.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Bonjour Rémi. Alors, donc, l'euthanasie, évidemment, on est dans la dernière ligne de droite. Les combattants ont aiguisé leurs armes et leurs arguments. Ils s'échangent avec quelques stupidités admirables, comme celle que rappelait Maëlys Clozel à l'antenne hier, ce député Renaissance qui explique que puisque les gens meurent de la canicule, il est bien nécessaire de voter cette loi pour les aider à mourir d'une façon légale et pas bêtement, tout simplement de trop chaud, voilà. Donc la canicule est devenue un argument pour les euthanasistes.
Exactement, Richard. Et vous savez, cher Richard, chers auditeurs, que ça fait 4 ans qu'on parle de cette proposition de loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté en France sur cette antenne. 4 ans, et ce sera la dernière fois, c'est promis, car mardi soir, il sera de fait trop tard, alors que beaucoup de nos compatriotes crèvent littéralement de chaud, faute de climatisation, à l'hôpital ou en EHPAD, et que je ne peux même pas vous téléphoner aujourd'hui comme d'habitude parce qu'Internet coupe quand il fait chaud dans notre pays. Prenons quand même une minute pour mesurer la gravité de l'enjeu de cette proposition de loi sur l'aide à mourir. 2 millions de personnes potentiellement concernées chaque année, une revendication portée par les mutuelles, les francs-maçons, et la gauche caviar mais qui fera couler le sang des pauvres, des malheureux et des handicapés. Vous n'y croyez pas ? Regardez les Pays-Bas qui ont euthanasié un enfant de 12 ans cette semaine. Vous n'y croyez pas ? Souvenez-vous, en Espagne, du martyr de Noelia Castillo Ramos, abandonné par l'État, violé avant d'être assassiné sur ordonnance il y a quelques mois. Vous n'y croyez pas, et pourtant, eux y croient, et ils y croient tellement qu'ils sont en train, à l'article 2, d'organiser leur irresponsabilité pénale. Ils y croient tellement qu'ils prévoient, dans un autre article, d'effacer les traces de leur crime en répertoriant l'euthanasie comme une mort naturelle sur le certificat de décès. Il ne s'agit pas, chers auditeurs, d'un combat de plus, mais du combat qui récapitule tous les autres. Avec l'aide à mourir, ils ont trouvé la clé de voûte de leur entreprise de profanation. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour s'opposer à cette proposition de loi. Il suffit juste d'être républicain, d'être humaniste. Où est la liberté, en effet, quand 400 Français meurent chaque jour dans l'agonie, sans accès aux soins palliatifs ? Où est l'égalité, alors que le reste à charge pour les familles de résidents en EHPAD avoisine en moyenne 3 000 € par mois ? Où est la fraternité d'un pays qui, à travers cette proposition de loi, n'exprime pas tant sa compassion pour la souffrance que son dégoût pour les souffrants ? De grâce, chers auditeurs, ne les laissons pas faire. Manifestation, chaîne de prières, tout est organisé et à portée de main d'ici mardi. Quoi qu'il arrive, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, mais surtout, surtout, quoi qu'il arrive, nous devrons revendiquer d'avoir résisté à cette ignominie. Il reste 96 heures au Lakers.
Alors, merci beaucoup pour ce plaidoyer. Pourquoi nous dites-vous qu'il ne reste que 96 heures ?
Alors, parce que la mécanique parlementaire, la navette parlementaire, arrive à son terme. On en est donc à la troisième lecture à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui va voter un texte mardi, et ce texte repartira au Sénat avec un accord, un désaccord probable entre les deux chambres, et le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il donnerait le dernier mot à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que la proposition de loi, si elle est votée mardi, qui s'appliquera en France concernant l'euthanasie et le suicide assisté, c'est celle qui est en train d'être débattue là et d'être finalisée par les députés. Et le reste, c'est de la logistique d'une certaine façon entre le 30 juin et le 15 juillet. Mais tout se joue en réalité avant le soir du 30 juin.
Alors, tout se joue avant le 30 juin puisque effectivement, voilà, si le Sénat fait comme les deux autres fois précédentes, c'est-à-dire rejette la loi, c'est le dernier état de la loi qui sera voté. Dans ces propositions qui sont débattues, dans les amendements qui sont proposés, il y a toujours ces choses un peu extraordinaires. Il faut le rappeler, comme par exemple le fait que les gens sous tutelle ou sous curatelle, donc dont on encadre toutes les actions dans la vie courante, sont brusquement libérés de cette tutelle et de cette curatelle pour décider qu'ils peuvent mourir. C'est-à-dire, ceux dont on considère qu'ils ne sont pas capables de vivre tout seuls, on considère qu'ils sont capables de prendre la décision de mourir tout seuls comme des grands. Et voilà, c'était un amendement d'un député communiste qui a été rejeté, ou encore ces amendements fascinants que vous avez rappelés, où n'importe quelle personne qui meurt par euthanasie est réputée être morte de mort naturelle. C'est un amendement qui a été mis en avant pour permettre aux sociétés d'assurance de verser les assurances-vie. Et d'ailleurs, il y a dans le texte de la loi, on explique expressément que cette loi ne doit pas empêcher les sociétés d'assurance de verser ce qui doit être versé dans le cadre d'une mort naturelle. Et donc, on va engager à travers cette loi une réforme de ces contrats. Donc, on sent qu'il y a une espèce de volonté de mort absolument formidable et que cette volonté de mort se double d'une double logique financière, faire en sorte que ceux qui veulent rentabiliser leur mort le puissent et faire en sorte que ceux qui ne veulent pas être appauvris par la vie des autres, comme les sociétés d'assurance mutuelle, le puissent aussi.
Il y a quelque chose d'absolument symptomatique dans le cas que vous évoquez, celui des majeurs protégés. Donc protégés aujourd'hui par la justice avec les régimes de tutelle et de curatelle. Les partisans de l'euthanasie et les défenseurs du texte à l'Assemblée vous expliquent que le texte s'adresse aux personnes dont la volonté est libre et éclairée. Et pourtant, la loi prévoit, c'est dans l'article 6, une procédure spéciale, non sécurisée, pour les Français sous tutelle et sous curatelle, c'est-à-dire des personnes dont la justice elle-même a estimé que pour des actes quotidiens, le fait d'aller signer un chèque par exemple, elles avaient besoin d'être accompagnées parce que leur discernement était éclairé, mais qui là, concernant l'euthanasie, serait laissé seul face au médecin et serait réputé libre dans l'expression de leur volonté. On a, avec ce point de la loi, peut-être le plus grand exemple d'inhumanité dans ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. Et les amendements qui ont été déposés par un certain nombre de députés, effectivement de tous bords, pour exclure explicitement les personnes atteintes de troubles cognitifs ou de handicap mental de la loi, ont été rejetés. Ça concerne pas quelques familles. Aujourd'hui, il y a 700 000 Français qui sont porteurs de handicap mental. Et si on compte les affections cognitives liées à l'âge, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, vous en rajoutez 1,3 million en plus. Donc en fait, quand on dit que cette loi, théoriquement, va pouvoir concerner 2 millions de Français chaque année, on est sans doute dans une estimation basse. Et on l'a dit ici, mais il faut le répéter, évidemment, il n'y aura pas 2 millions d'euthanasies en France chaque année. En revanche, la vie de 2 millions de familles va très concrètement changer parce que on n'est pas en relation d'accompagnement de la même façon quand l'euthanasie est interdite et quand elle est rendue possible. C'est-à-dire que même ces patients qui ne veulent pas recourir à l'euthanasie ou ces familles qui ne veulent pas que leurs proches soient euthanasiés, leur vie va changer si la loi est votée mardi. Et effectivement, vous l'avez dit, tout ça pourquoi ? Pour des affaires de gros sous, les 6 derniers mois de la vie sont ceux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Et c'est pas un hasard si le lobby mutualiste, si la MGEN notamment, milite de façon ouverte aux côtés de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Il y a une affaire de gros sous. Dominique Régnier rappelait qu'au Canada, c'était quasiment 200 millions de dollars qui étaient économisés chaque année grâce, entre guillemets, à l'aide à mourir. Donc il ne faut pas se tromper, il n'y a aucune humanité dans ce texte, il n'y a aucune compassion pour la souffrance. La preuve, c'est qu'on ne cherche pas à la soulager en donnant accès aux soins palliatifs à ceux qui en ont besoin. C'est une affaire idéologique et c'est une affaire de gros sous.
Alors, une affaire de gros sous, une affaire idéologique, et en même temps une affaire d'aveuglement. Vous nous avez rappelé, bien sûr, les exemples canadiens, belges, hollandais. Ils sont de plus en plus stupéfiants. Voilà, en 2024, le Parlement hollandais autorisait l'euthanasie à des enfants de moins de 12 ans. En 2025, un enfant de moins de 12 ans a été effectivement euthanasié. Ce n'est qu'en 2026 que ça a été révélé par le ministre de la Santé des Pays-Bas, avec donc ce décalage un peu surprenant où on nous dit voilà, que cet enfant souffrait, qu'on ne peut nous dire ni son âge exact, ni la pathologie exacte dont il souffrait, ni même son sexe, mais donc plusieurs mois après sa mort. Et donc, dans une certaine opacité, on nous explique que la décision a été prise de l'euthanasier. Et comme d'habitude, on sent que chaque fois qu'un pas est franchi, c'est en fait beaucoup plus que ce qui est estimé au préalable, puisque le gouvernement des Pays-Bas prétendait que c'était entre 5 et 10 enfants qui étaient concernés chaque année. On sent qu'une fois que l'action est commise, c'est la porte ouverte en fait à une épidémie de mort, et qui d'ailleurs est dans le projet même des euthanasistes. On se souvient de Rossignol, qui en France expliquait qu'il fallait faire en sorte de ne parler que des cas les plus extraordinaires pour faire en sorte que l'euthanasie soit votée et qu'ensuite, peu à peu, on pourrait faire en sorte que tout le monde soit concerné par l'euthanasie sans aucune restriction.
Mais vous voyez, vous m'apprenez quelque chose, et j'ai donc commis une imprécision dont je m'excuse dans mon propos liminaire. Je ne savais même pas que l'euthanasie n'avait pas eu lieu au début de la semaine et que c'était l'annonce qui avait été faite en début de semaine. Mais ça montre quelque chose. Ça démontre que les mécaniques de contrôle et d'évaluation qu'on dit vouloir mettre en place pour s'assurer que tout est bien fait dans les règles, qu'il y ait une traçabilité parfaite des actes, en réalité, dans le concret de la vie, elles sont complètement inexistantes. Sachant que, de toute façon, ce contrôle a posteriori, et c'est un contrôle a posteriori là dont est en train de décider l'Assemblée nationale, ne protège personne, puisque une fois que le décès a eu lieu, on peut se dire « Ah, mais peut-être qu'il y avait un sujet sur le consentement, ah, mais peut-être qu'il y avait une pression de la famille », c'est trop tard. Et c'est d'ailleurs assez incroyable de voir que certains députés sont obligés de rappeler aux rapporteurs et au gouvernement qu'ils sont en train d'organiser un acte irréversible et que donc le contrôle ne peut pas se faire a posteriori, quand bien même on serait pour cette loi, mais il doit être a priori. Et là, dans le texte qui est en train d'être débattu, on est sur un contrôle a posteriori et avec une traçabilité évidemment qui sera très très légère, c'est-à-dire qu'en fait les points portant sur la traçabilité, c'est plutôt sur des questions de protection des données informatiques vis-à-vis du piratage, davantage que sur une vérification du respect des conditions d'accès par les médecins, a fortiori puisqu'ils seront présumés irresponsables du point de vue pénal, ce qui quand même pose au-delà de la question de l'euthanasie et du suicide assisté une question de droit pénal beaucoup plus large, c'est-à-dire que pour la première fois en France, il y a des gens dont on va présumer qu'ils sont irresponsables pénalement face à un acte de meurtre, y compris pseudo-combationnel. Donc c'est plus qu'un... Si vous voulez, on a quand même vécu depuis longtemps, mais depuis cette année notamment, un certain nombre de basculements ensemble. Mais là, c'est, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau et le basculement des basculements. C'est-à-dire qu'on est face à la profanation d'une certaine façon ultime. Et de toute évidence, les défenseurs de l'euthanasie ont quand même mauvaise conscience. La preuve, c'est qu'ils organisent en fait leur irresponsabilité et l'absence de traces.
L'organisation et les responsabilités est quand même admirable, effectivement. Donc ça veut dire que n'importe quel médecin qui a procédé à une euthanasie, quand bien même on nous expliquerait après qu'il avait parti lié avec la famille, que les raisons qui l'ont poussé à le faire étaient peut-être aussi celui d'un certain militantisme euthanasiste, voilà, donc c'est pas grave, voilà, quelle que soit la manière dont il a pu être corrompu par un neveu ou une nièce anxieuse d'accéder rapidement à l'héritage, ben, tout ça n'existera pas, quelle que soit la manière dont il a abusé de la confiance de quelqu'un qui venait le voir et à qui il a vendu l'euthanasie plutôt que de lui proposer les soins palliatifs. Voilà, et d'ailleurs, ça fait partie aussi des amendements rejetés. C'est-à-dire, quelqu'un avait proposé comme amendement que l'euthanasie soit proposée une fois qu'on avait pu parler des soins palliatifs et vérifier que les soins palliatifs étaient accessibles. Ça a été enlevé. C'est un des amendements qui a été rejeté. On est quand même stupéfait de la manière jusqu'au boutiste dont une partie de la classe politique française, on ne peut même pas dire la gauche contre la droite, hein, puisqu'il y a des gens de droite qui ont voté l'euthanasie à chaque fois, il y a des gens de gauche qui s'y opposent à chaque fois, y compris des gens d'extrême gauche. On est vraiment étonné de l'ardeur des zélotes de l'euthanasie à vouloir faire en sorte de supprimer tous les garde-fous qui paraîtraient parfaitement normaux. Imaginons qu'on parle d'une loi de remigration où tous les immigrés seraient renvoyés chez eux sans aucun examen au préalable de la raison pour laquelle ils sont en France, et en expliquant que il y aura bien sûr, une fois l'immigré renvoyé chez lui, un examen de la validité du renvoi. On imagine la tête des associations pro-immigration qui expliquerait à quel point c'est un déni de justice. Là, il s'agit de tuer des gens, et non, on examinera la validité de la chose une fois que la personne sera morte, sans évidemment aucun espoir de résurrection.
Oui, et le Conseil constitutionnel s'est encore illustré en la matière, puisque lui, qui est si jaloux de ses prérogatives et du respect d'un certain nombre de droits fondamentaux, n'a pas jugé utile que les Français s'expriment sur cette question de l'entrée en vigueur de l'euthanasie et du suicide assisté, ce qui quand même devrait un tout petit peu nous interpeller à la fois sur la dépossession démocratique à l'œuvre, mais aussi sur les arrière-pensées qui président d'une certaine façon à cette évolution législative. On a observé en commission des lois il y a 2 semaines, et là maintenant en séance, le rejet de tous les amendements, ou de quasiment tous les amendements de prudence, y compris ceux qui paraissent être des arguments de bon sens, effectivement, conditionner l'accès à l'aide à mourir aux personnes d'abord, ont pu avoir un accès aux soins palliatifs. Il y a quelque chose de très étonnant. Alors, faut pas désespérer complètement non plus, parce que à la faveur d'un retour de buvette tardif du rapporteur général et de certains de ses collègues, mardi soir, un amendement du Rassemblement national qui exclut les médecins du processus euthanasique a été adopté. La démocratie française étant ce qu'elle est, il y aura une réintroduction probable du dispositif par le gouvernement la semaine prochaine. Mais ça démontre quand même qu'il y a un rapport de force qui est en train de peut-être de changer de sens, et que dans les derniers mètres, il est possible en fait d'arrêter ces gens qui, sur ce sujet, mais sur tellement d'autres sujets avant, ont décidé de tout détruire en fait, et de détruire jusqu'au fondement même de ce qui nous relie et de la civilisation commune. Je n'ose même pas dire de notre civilisation, parce que vous iriez partout ailleurs dans le monde, une loi serait telle que celle-ci serait regardée avec stupéfaction. Donc il est possible de faire quelque chose. Et en plus, il y a cette logique un peu d'entraînement dont on peut espérer que d'ici à mardi, elle donne du courage à des députés qui, jusqu'ici, soit en ont manqué, soit ne s'étaient pas présentés en séance, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de faire ce qu'on peut tous faire à notre mesure. Là, il y a beaucoup de relais qui se font sur les réseaux sociaux, on peut s'associer à ça. Il y a une grande manifestation qui sera organisée dimanche, évidemment complètement transpartisane, pour ceux qui peuvent s'y rendre. Donc c'est à 16h à Paris, place Fontenoy. C'est une possibilité. Pour les croyants, vous avez un site qui a été mis en place, pris pour un député, vous trouvez un député et puis vous allez le porter dans votre prière pour que l'Esprit Saint le guide vers un choix de sagesse mardi. Bref, il y a plein de choses qui existent et qui peuvent permettre, si on s'y met tous, d'avoir une belle surprise, mardi. Et parfois, on dit que la France a un rôle particulier à jouer dans l'histoire du monde. Si elle refusait la légalisation de l'euthanasie, du suicide assisté, ça en serait peut-être aussi fini, littéralement, du suicide français. Ça marquerait peut-être une sorte d'inflexion, et pour sûr, on regarderait ça dans le monde comme un moment où la France tombait au fond de l'abîme, eh bien, se souvient d'elle-même et retrouve les promesses qu'elle s'était faites. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, au-delà de la question simplement éthique, il est important de mener ce combat, et chacun, là où on se trouve, on peut participer à ce succès. Et d'ailleurs, je pense que la condition du succès, c'est qu'on s'y soit tous un peu mis, d'une certaine façon, et c'est ce qui sera d'autant plus beau. Et aujourd'hui, les choses ne sont pas forcément très bien engagées, sinon on ne lancerait pas d'alerte. Mais d'ici mardi, tout peut encore changer si la mobilisation suit.
Alors, vous avez raison d'expliquer que, effectivement, tout peut changer. Alors, d'un côté, il faut quand même rappeler que l'Ordre des médecins s'est offusqué de l'amendement voté, comme quoi le médecin ne pouvait pas pratiquer l'acte euthanasique. Donc, voilà, on voit où penchent les institutions. C'est un communiqué conjoint de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des infirmiers. Mais vous avez raison quand même d'insister sur le fait que chaque député a malgré tout une conscience. On avait l'impression que beaucoup l'avaient remisé dans un un endroit soigneusement fermé à clé, au fur et à mesure des débats, de plus en plus expriment des doutes, une gêne. Rappelons aussi, malgré tout, ce que nous disait Elisabeth de Courrèges, infirmière qui intervient à la maison Jeanne Garnier à Paris, donc l'un des hauts lieux des soins palliatifs, où elle expliquait qu'elle était très étonnée de voir que même les parlementaires qui ont leurs parents en soins palliatifs font partie des promoteurs des lois sur l'euthanasie. Autrement dit, même ceux qui savent à quel point les soins palliatifs sont une solution meilleure quant à soi, peur du qu'en dira-t-on, etc., font partie de ceux qui soutiennent cette loi. Mais effectivement, on a l'impression que peu à peu, des doutes se forment. France Info s'en alertait. Voilà, y a des députés qui doutent, des députés qui ont une conscience. Rappelons aussi qu'en Écosse et en Angleterre, finalement, l'euthanasie n'est pas passée. Et donc, en tout cas, qu'une partie de ce que les promoteurs de l'euthanasie veulent mettre en avant ne réussit pas à passer la rampe, donc dans des pays au moins aussi éclairés que les pays français, au moins aussi progressistes.
Oui, et en fait, si la loi ne passait pas mardi, ce ne serait pas un progrès empêché, mais plutôt un progrès accompli. Parce que le sens de l'histoire, il est pour la prise en soin intégrale de la personne jusqu'à la fin de ses jours. On vit dans un pays vieillissant, et la canicule nous le rappelle douloureusement. On n'a pas pris les mesures à temps pour s'occuper du grand âge, pour s'occuper des gens qui souffrent de plus en plus du fait de ce grand âge, de pathologies chroniques par exemple, et on atteint d'une certaine façon, certains peuvent aussi prendre ça comme un signe des temps, une forme de point de révélation là où littéralement les Français sont en train de mourir de chaud dans les chambres d'hôpital et dans les chambres d'EHPAD. Est-ce que c'est le moment de s'essayer à des transgressions qui ont montré partout où elles ont été décidées leurs effets délétères, et partout où vous le dites, vous le rappelez, où ça a été décidé, on est en train de revenir dessus. Et aujourd'hui, c'est un combat qui est très largement transpartisan. Il y a des mobilisations du côté des antivalidistes, donc les antivalidistes, la gauche, voire même la gauche de la gauche, qui disent, mais attendez, c'est, tout ça est complètement contraire, à la fois au contrat républicain, mais plus simplement, en fait, à l'humanité la plus basique. Vous avez, bien sûr, un engagement dans des franges plus conservatrices, mais on n'est pas du tout dans une configuration un peu d'arrière-garde, où il s'agirait de tenir quelque chose qui, de toute façon, a vocation à passer, et de s'opposer au sens de l'histoire. Au contraire, accompagnons le sens de l'histoire, et aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est cette prise en soin de la vulnérabilité et de la personne humaine, et pas de revenir à des régressions qui sont en fait celles de l'hôpital des années 70, avant l'épidémie de sida, où les médecins arrivaient le matin et puis ils allaient vider les box en soins intensifs, ou pour des personnes qui souffraient de maladies comme le VIH et auxquelles on administrait des cocktails lithiques. Ça, c'est ce qu'on a fait par le passé. L'euthanasie, c'est le passé en réalité. Et donc là-dessus, il ne faut vraiment pas se tromper. Nous menons, pour le coup, un combat qui est un combat d'avenir, et qui est un combat positif, pas simplement à rebours d'une logique qui serait inexorable.
Absolument. Il nous reste juste une minute, Rémy Tell. Voilà. Ce serait bien quand même de rappeler cette manifestation parisienne, place de Louvois. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations prévues en France ?
Il y a essentiellement à Paris cette manifestation donc à 16h, une très grande manifestation évidemment transpartisane. Il faut regarder sur les différents réseaux sociaux des mouvements qui sont engagés, on pense évidemment aux AFC, on peut penser à la Marche pour la Vie, etc., à Alliance Vita, il y a des choses qui se feront dans chaque département, ça c'est certain. Et puis la mobilisation, encore une fois, en ligne, la possibilité d'écrire à son député courtoisement en expliquant que qu'on fasse d'une certaine façon au jugement de l'histoire, parce que évidemment c'est le vote le plus important de leur vie, Et donc c'est aussi celui dont on se souviendra pour le meilleur ou pour le pire. Et donc même, voilà, même quand il fait très chaud et que c'est un peu compliqué de sortir, il est tout à fait possible d'être utile. Les mails des députés, les adresses courriels, on les trouve donc sur le site de l'Assemblée nationale. Et puis il y a les réseaux sociaux aussi qui marchent beaucoup et qui sont très suivis par les élus. Et donc ça peut contribuer à faire changer les choses dans la dernière ligne droite.
Eh bien, merci beaucoup Rémy Tell. Et donc, pas à la semaine prochaine, mais à la rentrée sur Radio Courtoisie. Tout de suite, les chroniques de Jérémy Combe et de Tuc de Haldeny.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Et je voudrais, avant que Jérémy Combe ne parle, souhaiter un très bon anniversaire à Tahar Tahir, saluer son engagement pour la France. Nous fêtons aujourd'hui ses 80 ans. Merci beaucoup, monsieur, d'être un Kabyle venu en France, installé en France, converti à la foi catholique et qui a soutenu Radio Courtoisie depuis de nombreuses années. Voilà, donc bon anniversaire à monsieur Tahar Tahir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui, vous allez nous parler du voyageur moderne.
Exactement. Parce que nous sommes à la dernière chronique de cette année. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, allons voyager, partir en vacances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que autrefois, voyager était une aventure. On partait plusieurs semaines à cheval, en diligence ou en bateau. On traversait des pays, parfois des continents. Et l'on ne savait pas toujours dans quel état on arriverait. Aujourd'hui, nous nous plaignons lorsqu'un avion a 20 minutes de retard ou lorsque le Wi-Fi d'un train fonctionne mal. Le progrès a parfois raccourci les distances sans forcément développer la patience. Mais il a surtout créé une situation nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Nous passons régulièrement plusieurs heures enfermées avec des inconnus que nous n'avons pas choisis. Et c'est là que les bonnes manières, le bon goût deviennent indispensables. Le train, l'avion ou le covoiturage sont des laboratoires du vivre ensemble. Pendant quelques heures, nous partageons un espace commun. Nous n'avons pas besoin de devenir amis, mais nous avons le devoir de cohabiter intelligemment. Les premières règles de savoir-vivre dans les transports apparaissent d'ailleurs au XIXe siècle avec l'essor du chemin de fer, mes amis. Pour la première fois, des personnes de milieux très différents se retrouvent assises côte à côte pendant de longues heures. Les guides de civilité de l'époque recommandent déjà la discrétion, la retenue dans les conversations et le respect du voisin. Manifestement, certaines recommandations n'ont pas pris une ride.
Allez, prenons le train.
Il existe une scène que chacun a déjà vécue. Vous vous installez confortablement, prêt à profiter du voyage. Le paysage défile, le calme s'installe lorsque soudain une voix résonne dans tout le wagon. « Alors, je suis dans le train, tu m'entends ?» Comme si le téléphone portable avait mystérieusement supprimé la notion de volume sonore. La première règle du voyageur moderne est pourtant simple. Ce qui concerne votre interlocuteur n'intéresse pas forcément 50 inconnus. Les écouteurs ne sont pas un gadget technologique. Ils sont une invention majeure du savoir-vivre contemporain. Musique, vidéo, séries, jeux, conversations en haut-parleur, tout cela appartient à la sphère privée. Le silence, lui, appartient à tout le monde. Une autre règle mérite d'être rappelée. L'espace commun n'est pas un espace privatif. Votre siège vous appartient, pas le siège voisin, pas l'allée, pas le porte-bagages entier, pas la tablette du passager de derrière. Le savoir-vivre commence souvent là où s'arrête l'envie de s'étaler.
Alors passons maintenant à l'avion.
L'avion est probablement le lieu où la politesse est la plus mise à l'épreuve. Nous sommes fatigués, parfois stressés, parfois en retard, souvent à l'étroit. Et pourtant, c'est précisément dans ces circonstances que l'élégance se révèle. Prenons la question diplomatique la plus sensible après certains sommets internationaux, les accoudoirs. Qui a droit à quoi? Les spécialistes de l'étiquette sont assez unanimes. Lorsque trois sièges sont occupés, le passager du milieu hérite généralement des deux accoudoirs centraux. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à ne bénéficier ni du hublot, ni de l'accès à l'allée. C'est une forme de compensation territoriale.
Il faut que vous gériez les négociations avec l'Iran, Jérémy Combe.
Je vais m'y attacher pendant l'été. Autre sujet délicat, l'inclinaison du siège. Oui, cette fonction existe. Oui, vous avez le droit d'utiliser. Mais comme souvent en matière de savoir-vivre, la question n'est pas ce que vous avez le droit de faire. La question est comment vous le faites. Incliner brutalement son siège pendant que la personne derrière travaille sur son ordinateur ou prend son déjeuner n'est pas exactement une démonstration de raffinement. Un simple regard, un geste mesuré ou un peu d'attention suffisent généralement à éviter les conflits. Et puisque nous parlons de l'avion, rappelons une évidence. Retirer ses chaussures n'est pas forcément un problème, quoique. Faire profiter la cabine entière de leurs conséquences peut lui en être un. Les bonnes manières ont souvent un rapport étroit avec les odeurs.
Alors venons-en enfin au covoiturage.
Le covoiturage pour les jeunes est une expérience fascinante. Pendant plusieurs heures, des inconnus acceptent de partager une voiture comme s'ils se connaissaient depuis toujours. C'est un exercice de confiance mutuelle. La première règle est la ponctualité. Faire attendre trois personnes sur un quai ou un parking n'est jamais une excellente manière de commencer un voyage. La seconde est le respect du conducteur. Il ne s'agit pas d'un chauffeur privé, mes amis. Il rend service tout en partageant les frais du trajet. Critiquer sa conduite toutes les 10 minutes ou lui expliquer comment utiliser son GPS est rarement apprécié. Enfin, il existe une question essentielle. Faut-il parler ? La réponse est non. Enfin, pas obligatoirement. Certaines personnes adorent discuter pendant 4 heures. D'autres rêvent simplement de lire, de travailler ou de regarder le paysage. L'intelligence sociale consiste à percevoir la différence. Au fond, les règles de savoir-vivre dans les transports reposent toutes sur le même principe. Nous partageons temporairement un espace avec d'autres personnes. Nous ne leur devons pas notre amitié, nous leur devons notre considération. Le philosophe Blaise Pascal écrivait « Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre ». Je ne suis pas certain qu'il ait souvent pris l'avion en classe économique, mais il avait peut-être pressenti certaines réalités du voyage moderne. Heureusement, la politesse existe précisément pour dépasser nos petits agacements quotidiens. Car le voyage idéal n'est pas celui où tout se déroule parfaitement. Et finalement, le véritable luxe aujourd'hui n'est peut-être ni le surclassement, ni le wagon première classe. C'est simplement de voyager à côté de quelqu'un qui connaît encore les bonnes manières.
Partons au voyage ensemble, Jérémy.
Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances et à vous aussi, Richard. Reposez-vous de cette grande année.
Merci beaucoup.
Ligne droite, la revue de presse.
Et pour cette revue de presse, j'accueille avec plaisir Tugdual Denis. Bonjour Tugdual.
Bonjour Richard, bonjour à tous vos auditeurs. Cette semaine, en une de Valeurs Actuelles, nous avons consacré un grand dossier sur les dealers à l'assaut de la mairie, où vos auditeurs découvriront, pour illustrer cela, une meute de loups à l'assaut d'un bâtiment républicain. Écoutez, nous avons consacré cette une et ce dossier à ce sujet-là, car vos auditeurs ont dû noter ce qui s'est passé le soir des dernières élections municipales dans de nombreuses communes, où un mélange de malfrats, de dealers et de gens pas toujours recommandables ont pris possession des salles des fêtes, se sont manifestés bruyamment quant à l'élection de certains maires qui leur étaient moins défavorables que leurs prédécesseurs. Et c'est le deuxième étage, si vous voulez, de la fusée du narcotrafic en France. Il y a l'aspect un peu fait divers, policier, avec le trafic, avec les enquêtes policières, le travail des juges sur ce sujet. Mais maintenant, il y a même un entrisme politique avec, dans certaines communes, des dealers qui font les rabatteurs le jour des élections pour être sûr que les gens votent bien, avec des méthodes de mafieux, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas vraiment le choix à la population, parfois avec de la corruption, c'est-à-dire que si vous montrez une photo du bon bulletin dans l'enveloppe, on peut vous donner de l'argent en liquide, et puis même avec l'infiltration de certaines équipes politiques, municipales. Et c'est honnêtement absolument terrifiant de voir cet entrisme, ces pressions, ces intimidations, ces nouvelles corruptions. Ils sont dans certains endroits chez eux et on raconte tout cela. Alors ça avait commencé il y a quelques années avec la maire de Canteleu, une commune de Normandie, une petite commune de Normandie, où habitait d'ailleurs pour le clin d'œil Dominique Vénère. Et en fait la maire, qui n'est pas du tout LFI, s'était retrouvée dans une sombre affaire de corruption passive avec une famille locale de trafiquants qui faisait régner l'ordre en fait à la mairie. Et puis évidemment, plus récemment, il y a le cas de Saint-Denis. On y revient avec des suspicions fortes de proximité entre la nouvelle équipe municipale et des gens qui peuvent être liés au narcotrafic. De nombreux médias avaient déjà enquêté là-dessus. Et puis on a fait aussi un travail de data, comme on dit aujourd'hui, de collection de données et pour les faire parler. Et en fait, on a superposé la carte du deal avec la carte électorale, pour faire la carte électorale du deal, tout simplement. Et on se rend compte qu'il y a des scores très troublants dans certains quartiers où une activité de trafic de drogue est forte. C'est-à-dire que là où un maire LR, par exemple, va faire 52% au second tour, bah dans certains quartiers, et particulièrement les quartiers où il y a du trafic de drogue, son adversaire LFI ou de gauche, donc supposé plus favorable aux dealers, lui va faire des scores complètement inverses avec avec des chiffres vraiment très impressionnants. Je vous donne un exemple à Nice, aux dernières élections municipales, au premier tour. Là où Éric Ciotti, non, où Christian Estrosi faisait 37%, dans le, non, là où, pardon, excusez-moi, là où Christian, là où Éric Ciotti faisait 48% pour l'ensemble de la ville, et ben Christian Estrosi, lui, fait 59% au moulin, dans le quartier de l'Ariane, qui est un quartier où il y a beaucoup de trafic de drogue, et on se souvient que Christian Estrosi a fait une campagne municipale où il était allé un peu flatter. Flatter les quartiers. Voilà, et puis vous avez de nombreux quartiers comme ça en France, par exemple à Carpentras, où le candidat RN fait 50,78% et sur l'ensemble de la ville, et le maire socialiste Francis Adolphe, l'ancien maire socialiste Francis Adolphe, lui fait 90% à Pouy-du-Plan, qui est un quartier où il y a beaucoup de villes.
C'était effectivement cette carte électorale du deal est l'une des bonnes surprises de ce numéro, outre la couverture parfaitement angoissante et magnifiquement réussie d'un point de vue graphique. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet pression, infiltration, corruption. Quand les narcos prennent le pouvoir, voilà, c'est pas juste des députés qui ont le nez plein de poudre, c'est toute la France en fait qui est en danger. C'est dans le Valeurs Actuelles de cette semaine, les dealers à l'assaut des mairies. Merci et à la rentrée, tu gueules.
Zone libre.
Et pour la zone libre, je reçois les victimes d'Alexandre de Galzin. Bonjour Magda, une petite nouvelle pour venir compléter vos bulletins d'informations.
Exactement, moi la petite nouvelle, c'est une petite solution pour Alexandre qui visiblement a l'air de subir la chaleur en ce moment. Et bien, il y a un petit troupeau de vaches qui a trouvé la solution. Ils sont allés au troisième étage d'un hôpital en service chirurgie, ils sont restés un petit peu quelques temps et sont repartis en laissant en cadeau quelques petites bouses sans faire grand blessé. Ils ont profité de la fraîcheur de cet hôpital. C'est rare, les hôpitaux, il y a de la fraîcheur.
Comment ils ont fait pour arriver au troisième étage?
Ils ont grimpé dans les escaliers. C'est une bonne solution pour monter des étages.
Elles peuvent monter les escaliers, les vaches.
Oui. Tu sous-estimes à fond les vaches.
En fait, c'est le fait de les descendre, généralement, qui est un peu plus compliqué.
Ouais, le troupeau, il restait quelques temps pour.
Et vous avez déjà fait monter des vaches par les escaliers?
J'invoque mon
droit. Regarde, les hôpitaux, il y a des grands ascenseurs, mais.
Oui, parce que c'est plus simple par l'ascenseur, enfin dans le fond, mais c'est vrai qu'il faut appuyer sur les boutons.
Voilà, exactement.
Les vaches sont pour la sobriété heureuse et elles ont un côté ludite de refus de la technologie. C'est faux d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'étables qui sont maintenant équipées en traite automatique, et donc c'est la vache qui choisit elle-même le moment où elle se fait traire, et donc qui est capable de rentrer dans les traites automatiques. Ça permet de diminuer considérablement le temps de traite et le nombre d'humains consacrés à la chose.
Vous avez déjà traité une vache, Richard?
Mais oui, quand j'étais petit.
Et moi aussi.
Avec Francisco, il y avait cinq vaches dans la ferme.
Francisco?
Et nous allions ensuite faire le tour des.
Et attendez, c'est le même Francisco que
le tour du village. Non, je ne pense. Je pense qu'il est mort. Francisco. Je pense que mon Francisco est mort en fait.
Mais il va bien.
Il est mort. Merci. Merci Alexandre.
Alors oui. Comme quoi c'est bien. Il y a encore des hôpitaux en France qui sont climatisés parce que là on commence à avoir une espèce d'hécatombe. Donc c'est bien. Au moins on peut. Voilà. Mais en tout cas, à défaut des hôpitaux, vous avez ironisé tout à l'heure Richard là-dessus. Le journal L'Humanité est climatisé. On l'a appris récemment parce que L'Humanité aime bien faire la morale sur cette droite devenue VRP de la climatisation, mais qui pris la main dans le sac. puisque maintenant il y a des photos aériennes qui permettent de voir que le journal est bien climatisé et pas qu'un peu, eh bien, vu que je suis juste et honnête, il a été confronté, le directeur du journal, qui est sénateur également, qui s'appelle Fabien Gay, sénateur communiste, et donc évidemment,
c'est drôle comme nom, oui.
les journalistes l'ont confronté directement, yeah. Et je vous ai découpé sa réponse, voilà, un petit peu alambiquée, écoutez.
Monsieur le sénateur Fabien Gay, bonjour.
Bonjour. Finalement, vous êtes de droite, Fabien Gay.
Non, je... Oh, ça commence.
Mais non, mais parce que.
Je suis content de vous voir.
Tu t'appelles pas Fabien Droite.
Non, mais parce que j'ai vu que les locaux de votre journal L'Humanité étaient climatisés.
Oui. Bon, beaucoup de locaux qui ne nous appartiennent pas d'ailleurs.
Pour les gens de gauche, la clim, c'est un truc de droite, voire d'extrême droite.
Le communisme croit au progrès technique.
Non, mais
le communisme croit au progrès technique.
Vous confirmez que c'est climatisé chez vous?
Oui, on a fait. Enfin, on est locataire. On paye 680 000 euros à l'année. Comme ça, je suis assez. Transparent, il y a eu donc des travaux qui ont été faits et donc la climatisation a été installée. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Humanité dans ces locaux, il y a une cinquantaine d'entreprises partout. Donc
pour travailler, c'est quand même mieux la clim.
Et évidemment.
Évidemment. Alors, est-ce que cette réponse vous a convaincu?
ça m'a convaincu que, comme d'habitude, les communistes font le contraire de ce qu'ils proclament.
Ah bah oui, ils ne déçoivent jamais, ça c'est clair.
Il s'appelle Fabien Gay.
Grave. C'est surtout, il a l'air d'un apparatchik des anciennes républiques socialistes soviétiques.
C'est presque une caricature, d'ailleurs.
Oui. Il est massif. Il a un côté, voilà. paysan sibérien, oui. Qu'on a habillé au décrochez-moi ça, mm-hmm. avec un costard qui lui va pas. Et là, avec c'est le communisme dans toute son horreur.
Exactement.
On sent que c'est une espèce de petite brute à la base qui a dû gravir les échelons par des moyens redoutables et voilà, qui doit sa position plus à son allégeance au parti qu'à ses qualités intellectuelles. Je dis ça bien sûr en toute gentillesse et en toute charité. Et vous-même, Alexandre?
Non, mais écoutez, moi j'étais venu là essentiellement pour apporter mes lumières sur certains sujets qui auraient été mis en valeur. Enfin, je peux. Voilà, je suis là avant tout pour éclairer. Vous voyez, c'est
ça marche bien.
On m'appelle le porteur de lumière, celui qui porte l'espérance.
Lucifer. Oui, ça me paraît bien vu, effectivement. Eh bien, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette ligne droite. Merci pour cet extrait, donc où les sénateurs communistes sont transparents. Ça leur arrive rarement.
Et
merci de nous avoir signalé un vrai moyen de lutter contre la chaleur. Voilà, il suffit d'envahir les hôpitaux. C'est de toute façon quelque chose qui risque de se faire assez rapidement. Chers amis, il est temps de prendre congé de vous tous sur YouTube et sur X, mais on ne prend pas congé sans malgré tout vous rappeler que Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous, et Arnaud a une idée excellente et nouvelle pour vous encourager à nous donner.
Nouvelle pas vraiment, mais en tout cas elle fonctionne et elle a fait ses preuves. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, faites-nous des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou bien adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Et en attendant que l'argent arrive, nous réécoutons l'entretien avec Bertrand Alliot. Est-ce que la climatisation est indispensable pour survivre à la canicule? Eh bien justement, c'est tout l'objet de ce premier entretien.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, c'est avec Bertrand Alliot, essayiste, spécialiste des questions écologiques et qui participe d'ailleurs à la revue Transition Énergie. Bonjour Bertrand Alliot.
Bonjour.
Alors la question qu'on se pose tous, c'est la climatisation est-elle nécessaire ou au contraire la climatisation est-elle un luxe? Et même la climatisation est-elle nocive? Voilà, les écologistes ont souvent assimilé la climatisation à en fait une dépense non seulement inutile mais dangereuse pour la planète. On est en train, en France, de connaître des températures qui sont inédites, non seulement dans notre pays, mais même sur le reste de la planète, puisque mardi, mercredi, jeudi, 98 à 99% de la planète ne connaissait pas nos températures. Donc, effectivement, c'était peut-être le moment de se poser la question de la climatisation, étant donné que des hôpitaux publics ont décidé de ne pas se climatiser, alors tout en expliquant que la planète se réchauffe, à juste titre. Des rames complètes de tramways ont décidé de ne pas être climatisées, alors que la planète se réchauffe. Bref, est-ce que la climatisation est un véritable danger ou au contraire, la climatisation est-elle une position raisonnable pour équiper et lutter contre la canicule?
Non, la climatisation, alors elle ne va pas lutter contre la canicule, mais elle va nous permettre de la passer tranquillement, disons. Alors évidemment, La climatisation, ça fait partie des équipements des ménages et je vous annonce que, eh bien, elle va se généraliser un peu partout, en France, mais aussi en Europe. C'est vrai qu'en Europe, on était moins équipés qu'ailleurs, parce que peut-être qu'on pouvait s'en passer autrefois parce que les périodes de chaleur étaient moins intenses. On voit qu'aujourd'hui, on vit une période de chaleur exceptionnelle. Mais bon, comme dans les voitures, vous vous souvenez, il y a 30 ans, le nombre de véhicules qui avaient la climatisation, c'était quand même beaucoup plus faible. Or, aujourd'hui, personne ne la remet en cause. Alors, à l'époque, ça a été ressorti sur les réseaux sociaux, on voyait que Mme Voynet disait qu'il ne fallait pas de climatisation dans les véhicules et que même, elle allait disparaître au fur et à mesure parce que c'était vraiment inutile. Donc, on voit la bêtise de ces gens-là. Donc, évidemment, on a besoin de se protéger de la chaleur et la meilleure façon, c'est la climatisation, notamment dans les logements neufs ou même dans ceux qui ont été rénovés parce que ils sont bien mieux
isolés.
Je cherche mes mots, isolés, voilà. Et donc, on a besoin de cette climatisation. Moi-même, j'ai acheté un appartement dans le neuf. Alors, vous m'avez demandé de mettre...
Félicitations, Bertrand.
Oui, merci. C'est très aimable à vous. Vous voyez, derrière, j'ai mis ce que vous m'avez demandé de mettre, à ligne droite. Mais si je n'avais pas mis ça, on aurait vu mon climatiseur. Je l'ai mis assez rapidement. Et même si on n'a pas des périodes de canicule comme aujourd'hui avec 40 degrés, j'ai besoin de cette climatisation pour vivre sereinement parce que mon logement est trop bien isolé, en fait. C'est quasiment une nécessité. Donc, je l'ai fait installer très vite. Et j'avoue que je passe cette période de canicule avec une grande facilité. Donc, j'invite tout le monde, évidemment, à faire la même chose.
Alors, la France est équipée à 25% de climatiseurs, alors que je parle des foyers, c'est 50% en Italie, 90% aux États-Unis ou au Japon. Donc, autrement dit, il y a vraiment une différence culturelle de la France sur cette question de la climatisation des particuliers. Comment peut-on l'expliquer ?
Alors, on pourrait dire deux choses. D'abord, c'est que pendant quand même assez longtemps, la climatisation, on n'en avait pas forcément besoin à cause des températures qui étaient relativement faibles. On avait des périodes un peu pénibles. Mais globalement, c'était tout à fait faisable de vivre sans climatisation. Aujourd'hui, les températures ont tendance donc à augmenter. Il y a cette première chose. Alors, l'Italie, évidemment, c'est beaucoup plus au sud, donc c'est normal qu'il y ait plus de climatisation. Peut-être y avait-il un front aussi paysan en France, plus important dans certains pays. Je ne sais pas, vous savez, où on est très économes hein, de nos deniers, donc on fait attention. Mais plus fondamentalement, c'est qu'on a été un peu lobotomisé par l'esprit de l'écologie politique qui nous incite à être, plus qu'économe, mais... à mettre en place la sobriété. On voit par exemple le Shift Project de Jean-Marc Jancovici et toutes les élites en fait politiques. Et j'allais dire au-delà de la politique, c'est les élites industrielles, celles qui sont dans nos mairies, etc. Eh bien, sont pris un peu par ce discours écologique qui nous demande d'être beaucoup plus sobres. Et en fait, c'est je pense pour ça qu'on n'a pas en France mis en place des plans de climatisation en grande partie parce qu'on s'est fait influencer par cette nécessité soi-disant de sobriété. Or, aujourd'hui, on a largement de quoi équiper nos logements, et notamment parce qu'on a de l'électricité qui est décarbonée, et on a de l'électricité en abondance. Donc, je vous signale qu'on dépense beaucoup d'électricité en hiver pour nous chauffer. Donc, on a la capacité de produire de l'énergie en été, puisqu'on consomme beaucoup moins d'énergie et d'électricité en été qu'en hiver. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nous avons les infrastructures pour supporter un plan d'équipement des ménages et des entreprises, etc. Il faut aussi savoir que beaucoup de structures privées se sont équipées de climatisation. Hein. Les services de l'État ont été assez peu réceptifs, beaucoup de gens et de privés, d'entreprises, quand vous avez des locaux d'entreprises... quand vous avez des restaurants, par exemple, il y a beaucoup de restaurants qui sont climatisés aujourd'hui. Donc, quand même, il y a eu cet effort qui a été mis en place cette dernière décennie. De ce point de vue-là, la Bibliothèque nationale de France est climatisée depuis très longtemps. Il y a beaucoup de transports qui sont climatisés, quand même, de bus, etc. Mais on a vraiment eu l'impression, ces dernières années, qu'on est revenu un peu en arrière. Effectivement, il y a des projets, comme vous le disiez en introduction, nouveaux, où on ne veut pas climatiser, justement à cause de cette obsession... j'allais dire climatique, et le fait de vouloir pas dépenser d'énergie. Quoi. C'est une idiotie de ne pas vouloir dépenser d'énergie.
Alors, on ne dépense pas d'énergie, mais vous avez raison, il y a une espèce de stigmatisation de la climatisation, puisqu'on nous explique que c'est la mauvaise adaptation au changement climatique. Donc, d'un côté, on nous explique qu'il va faire de plus en plus chaud. Il y avait même des chiffres qui circulaient. Hier, on nous expliquait que là, qu'on avait connu quelques nuits caniculaires, mais que d'ici 10 ou 15 ans, il y aurait sans doute 24 nuits caniculaires en France, autrement dit, l'équivalent de 2 nuits de canicule chaque mois. Donc, alors qu'on se dirige vers un pays de plus en plus chaud, on nous explique, l'ADEME, les différents ministères de l'Environnement, qu'il faut en fait bannir la climatisation. Et Bertie Bayard citait notamment dans le Figaro, quand l'ADEME éduque au confort d'été, elle liste tous les gestes de bon sens, fermer ses volets, ou évidemment, comme Emmanuel Macron l'a tweeté, il faut tenir son corps mouillé, et les actions les plus conséquentes, la végétation. Avant de conclure, si la climatisation est malgré tout nécessaire, mieux vaut se laisser le temps de faire le bon choix. Donc véritablement, climatiser, c'est mauvais, c'est parce que, c'est-à-dire, au lieu de profiter de la technologie pour faire en sorte de vivre mieux, au contraire, il faudrait apprendre à souffrir et à s'adapter en étant le plus sobre possible, les mêmes personnes, évidemment, n'ayant pas encore le courage de nous demander de mourir de froid en hiver.
Oui, vous avez raison, finalement, on devrait aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire ne pas chauffer en hiver, vous avez tout à fait raison. Vous voyez, c'est vrai, tout ce discours-là est totalement absurde. On se souvient aussi de l'an dernier, parce que ce débat sur la climatisation existe depuis 2 ans. On se souvient de l'an dernier, enfin c'est pas l'an dernier d'ailleurs, c'est les Jeux Olympiques, c'était en 2024, c'est il y a 2 ans déjà. Eh bien, c'était, vous savez, on avait créé le village olympique et on n'avait pas climatisé le village olympique parce que nous sommes dans une mairie écologique, sans doute, et que l'État aussi est prisonnier de l'écologie politique. Eh bien, on n'avait pas donc climatisé, on avait commandé des climatiseurs au dernier moment pour le confort des athlètes. Et on a bien fait, d'ailleurs. Non, mais c'est incroyable. Je ne sais pas quoi répondre à tout ça, sinon que je me demande... J'ai l'impression que ce genre d'épisode va nous permettre enfin... On a commencé à sortir de cet embrigadement de l'écologie politique, mais là, ça va nous faire encore progresser plus vite en voulant vraiment se détacher de ce délire absolument incroyable qui s'est emparé de nos sociétés, la peur de la fin du monde, etc. Alors, vous disiez que dans 15 ans, les épisodes de canicule allaient se multiplier. C'est possible. Alors, moi, je suis toujours un peu prudent sur les... annonces qu'on nous fait. Je pense que l'avenir climatique est largement indéterminé. Aujourd'hui, il y a évidemment un réchauffement climatique. Personne ne le nie, mais on verra bien ce qui se passe dans les années qui viennent. En tout cas, c'est clair que depuis 50 ans, il fait plus chaud qu'avant. C'est la première fois qu'on vit une période de canicule aussi intense, et donc, et qui pour nous, pour passer tranquillement ces périodes de chaleur, quoi.
Alors, à côté de ça, voilà, le ministre de l'Environnement, la ministre du Logement, Valérie Dietard, Robin Rivaton, ont commencé à remettre en cause la RE 2020, autrement dit la réglementation environnementale qui encadre la construction, en montrant que, par exemple, l'installation d'un système de refroidissement actif dans les logements neufs est rendue pratiquement irréalisable par ces règlements qui encadrent la réglementation. La climatisation, et donc ils sont en train d'amender cette RE 2020 pour faire en sorte qu'on puisse faciliter l'installation d'une climatisation, pourvu qu'elle soit raccordée à un réseau urbain. Autrement dit, on a l'impression malgré tout que sous la pression des événements, de la chaleur, de la multiplication des épisodes caniculaires, le gouvernement est en train de se rendre compte que le réel, malgré tout, frappe plus fort à la porte que les écologistes à la fenêtre.
Oui, c'est tout à fait ça. Non, mais on va s'adapter petit à petit. Moi, je suis convaincu. Si vous voulez, ces débats, c'est un peu... Je veux dire, les particuliers peuvent s'équiper dès aujourd'hui. Enfin, il y a des problèmes, effectivement. Par exemple, quand vous habitez à Paris ou quand vous avez des réglementations qui font que vous ne pouvez pas, effectivement, installer le climatiseur parce que ça va dégrader esthétiquement la rue, etc., puisqu'il y a des unités extérieures quand on met un climatiseur. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. De même qu'il y a des copropriétés qui l'empêchent, etc. Donc, tout cela, il faut que ce soit des freins qui soient levés. Mais globalement, les gens ont quand même tendance à prendre l'initiative de s'équiper eux-mêmes. Et donc, le train est en marche. Et d'ailleurs, il faut investir dans les sociétés de climatisation. Je vous signale que ça a beaucoup fonctionné puisque il y a un équipement qui n'est pas encore là et donc que ça va beaucoup se développer dans les années qui viennent. Donc effectivement, on réagit face à une situation, mais comme d'habitude, de toute façon, on s'adapte parce qu'il y a une pression des événements qui nous oblige à nous adapter. Hein. Et c'est tout. Donc, mais bon, globalement, le train est en marche et il ne s'arrêtera pas. Donc les écologistes peuvent rentrer chez eux et arrêter de nous embêter parce que voilà, c'est...
Non, des écologistes qui d'ailleurs commencent eux-mêmes à dire mais non, pas du tout, on n'est pas contre la climatisation. Marine Tondelier a tenu à le rappeler assez malicieusement. Un journaliste a posé la question au directeur de l'Humanité en lui demandant si l'humanité était climatisée. Alors que tout le monde se rassure, le journal l'Humanité est climatisé du rez-de-chaussée au dernier étage dans toutes les pièces. Et donc on se retrouve avec aussi une position politique qui est en train de muter. À votre avis, et voilà, en une minute, est-ce que cette position politique va durer le temps de la canicule ou les écologistes vont-ils revenir à cette espèce de sobriété heureuse intenable ?
Non, non, ça c'est terminé. Le débat ne reviendra pas, c'est maintenant acquis. Donc on va avoir même, je pense, des plans de favorisation de la climatisation. Et puis les gens vont justement... passer à la climatisation, parce qu'ils se rendent compte que les solutions de fermer les volets, etc., ne marchent pas. Il n'y a qu'une chose qui fonctionne dans les cas où les températures sont aussi hautes, c'est la climatisation. Et on le voit dans les pays, d'ailleurs, qui sont dans des zones beaucoup plus chaudes que la France. La solution qui est adoptée partout, c'est la climatisation. Vous parlez d'ailleurs des États-Unis, c'est sûr que ça fait 40 ans que les États-Unis... ont installé la climatisation partout. D'ailleurs, elle est souvent réglée un peu trop froide. Hein. Si vous êtes allé aux États-Unis, c'est assez insupportable de rentrer dans les bâtiments tellement il fait froid quoi, pendant l'été. Donc, espérons qu'on n'arrive pas aux excès des États-Unis, mais moi, j'espère, effectivement, et je suis convaincu qu'il n'y a plus de débat, il n'y en aura plus. C'est terminé, les jeux sont faits, quoi.
Les jeux sont faits. Bien, merci beaucoup, Bertrand Alliot, pour ce point de vue raisonnable sur la climatisation, et à bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il va être temps de nous quitter. Je tiens quand même à redire à nouveau à Tahir le bon soutien que Radio Courtoisie lui envoie à l'occasion de ses 80 ans. Voilà, Kabyle, né orphelin, recueilli par les Pères Blancs, venu en France, il est devenu maçon. Voilà, c'est un fidèle soutien de Radio Courtoisie depuis les débuts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et il est avec nous, il nous a soutenus. Et justement, Arnaud, c'est le genre de choses que nous encourageons les gens à faire.
Et pour nous soutenir, effectivement, Richard, vous pouvez nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, et nous allons, grâce à cet argent, produire des bonnes émissions. Et par exemple, Arnaud ?
Alors, dans un instant, le Florilège des Arts de Nicolas Stocker. À midi, tout est politique en direct avec Thomas Gabriel. Euthanasie demain. Un droit de tuer, point d'interrogation, un entretien avec la Fondation Jérôme Lejeune et Mathieu Nolli. À 14h, le Libre Journal du Cinéma d'hier midi, dirigé par Philippe Rambaud. Il s'agissait d'une émission consacrée au road movie USA avec Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Torret. À 17h, Histoires à la loupe de Patrick Simon, Stephenson, pionnier dans l'invention de la locomotive à vapeur. À 17h30, Restons courtois avec Marc Baudrier ce soir en direct. 10 ans plus tard, les Anglais regrettent-ils vraiment le Brexit ? Ce sera avec Leslie Shaw. Et puis, pourquoi les écologistes sont-ils si frileux face à la climatisation ? Avec Philippe Charlez, expert en questions énergétiques. 19h30, le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît Aglon, les artisans de votre patrimoine immobilier. Et puis ce soir à 23h, nous terminerons avec Patrick Banquen et l'émission Chant Grégorien, consacrée cette semaine au 5e dimanche après la Pentecôte et aux pièces de l'ordinaire très variées.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci Richard, et puis on se dit à lundi.
À lundi.